est 22h, passé de 15 secondes, vous écoutez Europe 1, belle soirée à vous. Tout de suite, le journal de François Geffrier. Bonsoir François.
Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. À la une ce soir, 3 ministres, 3 heures d'audition. Christophe Castaner, Bruno Le Maire et Laurent Nunez sont passés sur le grill des sénateurs ce soir. Ils ont expliqué leur stratégie de maintien de l'ordre et de soutien économique aux entreprises touchées par le mouvement des Gilets jaunes. On écoutera le ministre de l'Intérieur dès le début de ce journal. Et si les Gilets jaunes avaient donné un coup de pouce à l'économie française, sans aller jusque-là, le très sérieux Institut de la Statistique, l'INSEE, parle ce soir d'une consommation soutenue par les mesures du gouvernement en décembre, après les 4 premiers samedis du mouvement. Aujourd'hui, c'est la CGT et FO qui mobilisaient pour défendre le pouvoir d'achat et les services publics. On a compté 17 500 manifestants à Paris, vous entendrez certains d'entre eux. À la une également, le pape refuse la démission du cardinal archevêque de Lyon, Philippe Barbarin, mais celui-ci se retire quand même, au moins provisoirement. Tuée pour un téléphone portable, l'étudiante de 21 ans poignardée dimanche à Marseille a reçu l'hommage des habitants en présence de sa famille. Dans ce journal, le procès des militants véganes à Lille après les dégradations chez les Bouchers du Nord, le PSG qui s'en tire bien pour l'instant côté fair play financier et Florent Manoudou qui ne peut pas s'empêcher de se rejeter à l'eau. Dans un quart d'heure, la météo, le point sur les marchés avec boursier.com et l'interview Écho d'Europe 1 sans modération. Emmanuel Dutheil reçoit ce soir le PDG d'Heineken France, Pascal Sabrier.
Europe 1.
Ils ont donc été assaillis de questions cet après-midi face à la commission des lois et la commission des affaires économiques du Sénat. Les ministres de l'économie de l'intérieur ont dû justifier leur politique face aux violences et aux dégradations liées au mouvement des Gilets jaunes. 3 heures de questions-réponses. Christophe Castaner a tenté de se justifier tout en reconnaissant qu'il savait que la manifestation de samedi dernier était à fort risque.
Nous avions prévu, et c'est presque un paradoxe que de vous le dire, mais nous devons l'assumer, nous avons prévu ce niveau de participation et ce niveau de violence. Vous avez interrogé sur le renseignement, Monsieur le Président, je vous le dis, nos renseignements étaient bons et notre dispositif, plus de 5000 policiers et gendarmes, était très important. Il n'y a donc pas eu en amont un problème d'anticipation. Devant les notes qui nous remontaient sur les risques de débordement, nous avions fait part au préfet de police d'une consigne extrêmement claire, la plus grande fermeté. Au regard des événements de la journée, un constat s'impose. Cette consigne n'a pas été exécutée convenablement. Il y a eu des dysfonctionnements, ils ont causé des violences. Alors nous avons immédiatement et précisément examiné les événements et pris les décisions qui s'imposaient.
Christophe Castaner au Sénat avec Adrien Beck pour Europe 1. Le ministre de l'Intérieur très critiqué depuis le week-end dernier, ce matin, c'est Jordan Bardella, tête de liste du Rassemblement National pour les élections européennes qui a réclamé sa démission. Il l'accuse d'être le ministre du laxisme. Il doit s'en aller, déclare Jordan Bardella. Il est totalement incapable d'assurer la sécurité des manifestants. L'état de droit n'existe plus aujourd'hui, dit-il. Alors ce samedi était l'acte 18 du mouvement. Souvenez-vous, cela a commencé le 17 novembre 2018, quelques semaines plus tard, le 10 décembre, Emmanuel Macron annonçait une série de mesures destinées à redonner rapidement du pouvoir d'achat aux Français, notamment pour les classes populaires. Et bien ce soir, l'INSEE, Institut National de la Statistique et des Études Économiques, a donné ses dernières estimations de l'état de l'économie française. Olivier Samin, vous avez assisté pour Europe 1 à cette présentation avec une petite surprise liée justement aux Gilets jaunes.
Mais oui, l'économie française peut presque dire merci aux Gilets jaunes. Les mesures d'urgence annoncées au mois de décembre par Emmanuel Macron ont mis du beurre dans les épinards, beaucoup de beurre. Qu'il s'agisse de la prime d'activité revue à la hausse et élargie pour les actifs profs du SMIC, qu'il s'agisse de l'exonération d'impôts et de cotisations salariales sur les heures sup, ou qu'il s'agisse de cette fameuse prime exceptionnelle exonérée de charges sociales et défiscalisée. À ce jour, dit l'INSEE, plus de 2 millions de salariés du secteur privé ont perçu cette prime, autrement dit, un salarié sur 10, et ont touché en moyenne 449 euros. Tout ça a dopé les revenus et donc le pouvoir d'achat qui, dit l'INSEE, devrait progresser de 0,7% au premier trimestre avant de se stabiliser au deuxième. Et qui dit pouvoir d'achat en hausse, dit consommation bien orientée, même si les Français ne vont pas dépenser tout de suite l'intégralité de ce qu'ils ont gagné. C'est un phénomène classique. Il n'empêche, c'est en grande partie grâce à la consommation soutenue des ménages que l'économie française va bien s'en tirer d'ici à l'été.
Olivier Samin du service économie et sociale d'Europe 1. Alors aujourd'hui, quelques gilets jaunes étaient de sortie dans les rues de France, mais ce sont surtout les cortèges syndicaux plus traditionnels qu'on a vu défiler. On a noté une grève assez suivie dans l'éducation nationale. Un enseignant sur 4 était en grève selon le ministère. Plus généralement, la CGT et Force ouvrière appelaient à une journée d'action pour la défense du pouvoir d'achat et des services publics. C'est ce que sont venus dire ces manifestants rencontrés à Paris.
Ça fait maintenant plusieurs mois avec les Gilets jaunes que des revendications sociales sont portées par les syndicats, les syndicalistes, sur l'augmentation des salaires, sur la défense de nos régimes de retraite également, et dans l'éducation nationale plus spécifiquement pour l'abandon de la loi Blanquer sur l'école de la confiance.
Donc il n'y aurait plus de directeurs et directrices d'école. Donc ça signifie moins de proximité. On se demande qui va gérer les problèmes au quotidien, qui s'occupera des élèves, qui les connaîtra, qui connaîtra les familles, qui fera du lien.
Je suis en colère contre le fait de comment on maltraite les traités. Le gouvernement, eh bien, il ne fera rien pour les travailleurs, rien pour les retraités, parce qu'il est au service des riches.
Témoignage recueilli cet après-midi à Paris au micro Europe 1 d'Emmanuel Calafiore. Comme souvent, le comptage des manifestants donne lieu ce soir à de grands écarts. Ils étaient 130 000 à défiler selon la police dans toute la France, 350 000 selon la CGT. À Paris, un comptage réalisé par un cabinet spécialisé pour le compte de plusieurs médias donne le chiffre de 17 500 personnes qui ont défilé contre 50 000 pour la CGT, 12 000 pour la police. Un navire humanitaire saisi par la marine italienne. Ce soir, le Mare Jonio était bloqué au large de l'île de Lampedusa. Les membres d'équipage vont être interrogés. 48 migrants se trouvent à bord. Ils ne mettront pas les pieds en Italie avec mon autorisation, a déclaré ce matin le ministre italien de l'Intérieur, Matteo Salvini.
Europe 1, le journal de la nuit. François Geffrier.
22h06 sur Europe 1. Deux décisions apparemment contradictoires dans l'Église catholique aujourd'hui. Son chef, le pape François, a refusé la démission du cardinal Philippe Barbarin, condamné en France à 6 mois de prison avec sursis pour non-dénonciation d'abus sexuels dans son diocèse. Le pape explique qu'il veut respecter la présomption d'innocence, car Philippe Barbarin a fait appel. Pour autant, le cardinal archevêque de Lyon annonce qu'il se met en retrait de ses fonctions. Alors, Jean-Luc Bougeon, vous êtes notre correspondant à Lyon. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, cette mise en retrait ?
Eh bien, ça veut dire qu'il s'efface momentanément. Alors concrètement, il laisse le pilotage du diocèse au vicaire général qui s'occupera des nominations, de lancer les grands chantiers, de gérer les choses au quotidien. Le cardinal Barbarin ne célébrera plus de messe, par exemple, il ne célébrera pas celle de Pâques. Mais quoi qu'il en soit, il reste cardinal archevêque de Lyon. De ce côté-là, rien ne change. Il dit dans son communiqué qu'il se met en retrait pour quelque temps. On comprend jusqu'à son procès en appel, procès dont on ne sait pas encore quand il aura lieu. En tout cas, cette attitude est saluée par son avocat, Maître André Soulier.
Sans doute a-t-il besoin de réfléchir, de se reposer, etc. Mais ça me paraît à la fois raisonnable, intelligent et respectueux de la justice et des intérêts des divers partis. Moi, je trouve le geste d'une grande noblesse.
Évidemment, ce retrait temporaire est mal vécu par les victimes du père Prénat, mais c'est surtout le choix du pape de refuser cette démission qui constitue un affront pour Pierre-Emmanuel Germain-Thiel, porte-parole de l'association La Parole Libérée.
On voit clairement que l'Église, pour l'instant, n'avance pas. Et on se demande si elle a vraiment l'intention d'avancer, quoi, avec tout ce qui a été révélé, tout ce que les gens ont voulu témoigner au sein même de l'Église pour les aider à avancer, à prendre conscience. Quand on voit cette décision du pape aujourd'hui qui scandalise beaucoup de victimes, j'ai reçu énormément de messages depuis quelques heures, c'est scandaleux, quoi.
Et puis ce soir, il faut noter aussi la réaction surprenante de la Conférence des évêques de France qui dit s'étonner de la situation inédite du cardinal Barbarin. Visiblement, ce retrait interpelle jusque dans l'Église.
Jean-Luc Bougeon, correspondant d'Europe 1 à Lyon. Merci Jean-Luc. Situation dramatique au Mozambique après le passage d'un cyclone la semaine dernière. Ce pays du sud-est de l'Afrique compte plus de 200 morts et s'attend à ce que ce chiffre dépasse le millier. Les dégâts matériels sont très lourds aussi. 23 000 maisons détruites, 30 unités de santé, 500 salles de classe, selon le bilan des autorités mozambicaines. Un report du Brexit aurait un coût non négligeable, prévient Bruxelles. Alors que Theresa May, première ministre britannique, s'apprête à envoyer un courrier pour demander de repousser la date du divorce entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, les pays de l'Union font pression. Paris prévient qu'un report du Brexit au-delà du 29 mars n'est ni évident, ni automatique. Et selon l'INSEE, on y revient, l'Institut de statistique français, un Brexit dur pourrait amputer le PIB de la France d'1,7% à long terme. À suivre, un rassemblement plein d'émotions cet après-midi à Marseille pour la mémoire de Marie, cette étudiante de 21 ans poignardée à mort dimanche à Marseille. A tout de suite.
Europe 1. Parce que les enfants sont notre avenir, vous pouvez choisir de faire un leg ou une assurance vie à la chaîne de l'espoir.
Appelez Annick, responsable leg, au 01 44 12 66 80, prix d'un appel local.
Aujourd'hui, je suis allé faire le plein. Mais si je vous dis pas un plein de quoi, là, c'est le vide. Un plein de course, utile. Un plein d'air pur, bucolique. Ou un plein d'essence. Moins poétique, hein.
Avec Nissan, plus besoin de passer à la pompe pour faire le plein. La Nissan Leaf 100% électrique d'occasion est à seulement 99 € par mois. Et jusqu'au 31 mars, pendant la quinzaine de l'occasion, découvrez d'autres offres exceptionnelles.
Nissan, innovez autrement.
Leaf Visia 24 kWh, occasion 3 ans, LLD premier loyer 5 000 €, puis 48 loyers 99 € si accordiaque. Détail Nissan.fr.
Le journal de la nuit, François Geffrier sur Europe 1.
Il est 22h10, merci d'être avec nous ce soir sur Europe 1. Elle s'appelait Marie, elle avait 21 ans. Elle était étudiante en anthropologie. Elle a été poignardée, semble-t-il, pour son téléphone portable après l'agression de dimanche soir à Marseille. Un rassemblement aujourd'hui sur le campus de la fac où elle étudiait. Plusieurs centaines de personnes étaient présentes, dont la famille de la victime et sa maman qui a lancé un appel contre l'indifférence. Vous étiez présente à cet hommage, Nathalie Chevance.
Oui, dans la cour de la fac de lettres, là où Marie-Bélène étudiait l'anthropologie, hommage rendu en présence de sa famille, ses deux frères et sa mère venus d'Alès dans le Gard pour pousser un cri de douleur, de colère aussi, mourir pour un vol de téléphone portable. Marie faisait un mémoire sur le rouge à lèvres, la féminité, une élève passionnée par ses études, qui laisse une maman en pleurs, mais qui a trouvé la force de lancer un appel contre l'indifférence.
Avec ce cri silencieux et ardent au fond de ma gorge, j'imite la carpe. La maman de poisson de Bobby Lapointe que je te chantais, on ne voit pas les larmes des poissons dans l'eau, qui fait le doigt d'honneur à la violence. Nonobstant, il me paraît essentiel d'avertir, de prévenir, ouvrons les yeux et refusons l'indifférence et la peur. Agissons, il faut réagir, il faut réfléchir, qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas permettre ça? Parce qu'aujourd'hui, c'est moi qui pleure. Mais demain, c'est peut-être vous ou une autre dame.
Et Marie s'était déjà faite agresser à Montpellier il y a quelques mois. Personne n'avait réagi à l'époque, si ce n'est en filmant la scène au téléphone portable. À Marseille, son meurtrier court toujours. Il reste désormais dans le hall de la fac où elle étudiait, sa photo au-dessus d'un bouquet de fleurs.
Merci Nathalie Chevance, correspondante d'Europe 1 à Marseille. On a reparlé aujourd'hui de ces attaques antispécistes qui avaient marqué l'actualité l'an dernier. Des boucheries du Nord avaient été couvertes de tags et vandalisées. Le procès des personnes soupçonnées d'être à l'origine de ces actions s'est ouvert à Lille cet après-midi. Lionel Gougelot pour Europe 1 a assisté à cette journée d'audience.
En garde à vue, les deux principaux prévenus, un couple d'une trentaine d'années, avaient avoué et même assumé les faits reprochés. Plusieurs tentatives d'incendie volontaire contre un fast-food et deux restaurants de grillade, à chaque fois des centaines de milliers d'euros de dégâts. Mais devant le tribunal, ce sont trois jeunes femmes et un jeune homme un peu paumé qui font finalement profil bas. Ces actions de vandalisme, ces incendies, ces cocktails Molotov, dit l'un d'entre eux, c'était pour donner de la visibilité à la cause antispéciste. Je n'avais pas mesuré les conséquences de mes actes. Argument repris par Barbara Bach, l'une des avocates de la défense.
Le but aujourd'hui, c'est de démontrer que les antispécismes, et notamment ma cliente, ne sont pas des hystériques extrémistes, mais des personnes tout à fait bienveillantes et qui pensent d'abord aux animaux. Ce sont des personnes qui travaillent, qui sont intégrées et qui ont des valeurs.
Mais les commerçants, restaurateurs, victimes de ces actions violentes, ne croient pas un mot des regrets de ces militants. Laurent Rigaud, président du syndicat des bouchers du Nord, attend maintenant une réponse ferme de la justice.
Ceux qui viennent par la violence, par les incendies, vouloir faire passer leur mode de consommation, c'est seulement inacceptable. Pour nous, c'est même du terrorisme. Nous, les artisans, les commerçants de proximité, on ne peut pas accepter qu'il y ait des fous furieux comme ça qui se servent des Hauts-de-France comme terrain de jeu pour passer leurs idées.
Le procureur requiert 6 et 10 mois de prison ferme pour le couple de meneurs, du sursis pour les autres détenus. Le jugement sera rendu le 8 avril prochain. Lille, Lionel Gougelot, Europe 1.
François Geffrier sur Europe 1.
Un nuage de moins dans le ciel au-dessus du PSG. Le club de foot parisien risquait une lourde sanction au titre du fair play financier. Julien Froment, vous suivez pour Europe 1 toute l'actualité du club de la capitale. Aujourd'hui, on peut dire qu'il s'en est bien sorti.
Alors c'est une victoire sur la forme et non sur le fond. Le TAS, le tribunal arbitral du sport, n'est pas là pour dire si Paris respecte ou non le fair play financier. On le rappelle, le fair play financier, c'est ne pas dépenser plus d'argent qu'on en gagne. Mais le TAS a donné raison au club car la demande de réexamen de ses finances a été faite trop tardivement. L'enquête sur les comptes du PSG est donc clôturée et définitive. Décision saluée par la direction et qui va donner beaucoup d'air, me glisse-t-on, au club, qui compte bien poursuivre son développement. Pour autant, Paris n'est pas sorti d'affaire, car en juin prochain, à nouveau, il devra présenter ses comptes au fair play financier. Il y a toujours les transferts de Neymar et Kylian Mbappé pour 400 millions d'euros à amortir. Au rayon des bonnes nouvelles, le nouveau contrat avec le groupe Accor estimé à 60 millions d'euros. Et puis le merchandising qui devrait rapporter aussi gros. En revanche, l'élimination en Ligue des Champions, c'est des dizaines de millions d'euros en moins. Le PSG pourrait être contraint de vendre des joueurs cet été pour rester dans les clous. Mais peut-être un peu moins avec la décision de cet après-midi.
Merci Julien Froment du service des sports d'Europe 1. Sa sœur l'avait tenté sans succès à son tour. Florent Manaudou veut faire son retour dans les bassins. Champion olympique sur le 50 mètres nage libre à Londres. Il vise les JO l'an prochain à Tokyo et ceux de Paris en 2024. Après 3 ans de pause, rien n'est impossible selon Julien Issoulier, directeur technique de la natation française.
Oui, Florent fait partie des sportifs et notamment des nageurs qui ont des qualités exceptionnelles.
On l'a vu nager cet hiver très vite en petit bain, alors qu'il ne devait pas être spécialement préparé pour ça. Donc moi, je ne suis pas inquiet sur sa capacité à revenir. Mais encore une fois, je pense qu'il ne faut pas lui mettre plus de pression. S'il revient, c'est forcément pour aller chercher des titres et des médailles. Maintenant, à lui de s'entraîner, de reprendre la forme, peut-être de reperdre un peu de poids. Et puis après, il a tout pour y arriver. Donc c'est à lui de se remettre dedans tranquillement et de nous montrer de quoi il est capable.
Le directeur technique de la natation française, joint pour Europe 1 par Corinne Boulot. Il est 22h15, on retrouve Elena Morna. Elena, vous nous annoncez un festival de bonnes nouvelles jusqu'en fin de semaine.
Et même jusqu'à la fin du mois, François. Tout ça grâce à l'anticyclone des Açores qui se positionne sur la Bretagne pour les trois prochains jours. Alors il va ensuite se décaler légèrement sur le proche Atlantique ce week-end. Résultat pour demain. Pour commencer, ça nous donne une matinée encore un peu fraîche, c'est vrai, avec quelques gelées sur le Grand Est ou sur le Sud-Ouest, sous un ciel clair. Un peu moins clair sur les bords de Manche et les Pays de la Loire, sous les nuages ou dans le brouillard. Pareil pour le Pays Basque. Mais ça s'arrange l'après-midi, davantage d'éclaircies au nord, du soleil au sud, des températures qui se radoucissent par rapport à aujourd'hui. 10 degrés au moins à Boulogne-sur-Mer, 12 à Épinal et Belfort, 13 au Havre comme à Quimper et Pontarlier, 14 à Lille, Nantes, Strasbourg et Auxerre, 15 pour Paris, Angoulême, Bordeaux, Toulouse, Lyon, 16 à Grenoble et Ajaccio, 17 à Cahors et Toulon, 18 pour Marseille, 19 pour Nîmes. Pour l'heure, on ne voit pas l'anticyclone voyager plus loin que le proche Atlantique d'ici la fin du mois. Nous devrions donc conserver cette très belle lumière printanière.
Merci Elena Morna, on vous retrouve à minuit pour un nouveau point météo.